sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Bonsoir. Il est 19h passé de 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors ce soir, on va revenir sur l'attentat d'hier à Beyrouth.
Le directeur de l'usine Forgital séquestré.
Ensuite, on va parler d'un article du Figaro qui annonce une vague d'émigration en France.
Un détenu se fait la malle de la maison d'arrêt de Béthune.
Ensuite, un barème antisexiste pour les films.
Les journées internationales de plus en plus de conneries.
Et ensuite, on verra que le 11 novembre, les 100 papes d'Europe n'ont pas signé l'armistice.
Des nouvelles de la ZAD.
Et on finira sur une petite note de football.
Trois vendeuses devant les prud'hommes. Elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Alors, hier, à Beyrouth, il y a eu un attentat donc contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth, qui a été visée par un double attentat suicide qui a fait au moins 23 morts et près de 150 blessés. Ça, c'est selon des sources officielles. Donc les deux explosions se sont produites à 9h40, 8h40 en France, de manière presque concomitante. La première est due à un kamikaze qui conduisait une moto et la deuxième est due à un autre kamikaze qui conduisait un 4x4. Et le double attentat s'est produit à Bir Hassan, c'est un quartier résidentiel du sud de Beyrouth, à majorité chiite et bastion du Hezbollah. Un groupe djihadiste considéré comme lié au réseau extrémiste sunniste Al-Qaïda a revendiqué l'attentat sur Twitter. Voilà, donc la banlieue sud de Beyrouth avait été déjà frappée par deux autres attentats à la voiture piégée dont le deuxième avait fait 27 morts. Et donc ça s'était passé dans l'été et avait été revendiqué par un groupuscule inconnu qui avait dit riposter à l'engagement du Hezbollah en Syrie. Et là, c'est bien hier l'objet de ces deux attentats aussi. Donc ces attaques visant l'Iran par rapport au conflit en Syrie pour protester contre Téhéran qui a dépêché des experts militaires et encourager le Hezbollah libanais ainsi que des miliciens chiites irakiens à participer au combat aux côtés des troupes du président Bachar al-Assad. Donc ces attentats, c'est pour critiquer la politique de Téhéran. Le soutien de ces milices chiites a permis à l'armée syrienne de remporter des victoires sur le terrain autour de Damas, mais aussi dans le nord de la Syrie. Donc soutien qui a grave aidé Bachar al-Assad. Donc les réactions sont très diverses et très contradictoires. Donc je vous donne un peu les réactions de différentes personnes et de pays pour sentir la tension, les tensions. Donc l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Gadanfar Roxon Abdi, a accusé Israël, donc c'est Israël qui a commis ces attentats, dénonçant un acte terroriste. En Israël, un proche du président, du premier ministre Benjamin Netanyahou, le député Tsai Hanegbi, a affirmé aux journalistes qu'Israël n'avait rien à voir avec les attentats. De son côté, Damas a accusé, sans les nommer, les monarchies pétrolières du Golfe. Donc, le gouvernement syrien condamne fermement l'acte terroriste et a affirmé la télévision syrienne, ajoutant que l'odeur du pétrodollar se dégageait de tous les actes terroristes frappant la Syrie, le Liban et l'Irak. L'Arabie Saoudite, elle, a fustigé à plusieurs reprises l'implication de l'Iran dans le conflit syrien et la participation du Hezbollah. Au Liban, le chef de la coalition anti-Hezbollah, l'ex-premier ministre sunnite Saad Hariri, a condamné l'attentat. Il faut préserver le Liban des flammes qui l'entourent et éviter aux Libanais les retombées de l'implication militaire dans la tragédie syrienne. La France a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat sanglant, ça... on s'y attendait, et retirer son soutien au gouvernement libanais pour préserver l'unité nationale. Bon, voilà, on ne sait pas trop. Bref. À Londres, le Foreign Office a dénoncé l'attaque terroriste choquante contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth qui a fait tant de pertes humaines. Voilà, voilà.
Alors, le directeur de l'usine Forgital à Chambon-Feugerolles, ça c'est dans la Loire, a été séquestré par les salariés de l'usine depuis mardi soir, donc depuis hier soir. Bon, alors depuis, pas de panique, il a été relâché cet après-midi. Et alors, le contexte de l'usine, c'est en gros, ils n'ont pas fait ça non plus pour le plaisir. L'usine est touchée par un large plan de licenciement. Les salariés réclamaient l'augmentation de la prime supralégale pour, en gros leur prime supralégale de licenciement. Alors, qu'est-ce que c'est que la prime supralégale? Je l'ai appris en même temps que j'ai fait l'article. Là, c'est en gros, c'est une prime qui vient en plus du minimum légal qui est imposé par la loi et aussi imposé par les conventions collectives quand il y en a. Cette semaine, dans l'usine, avait lieu des négociations entre le patronat, les représentants syndicaux et la préfecture pour mettre en place le plan de licenciement. Les salariés ont donc simplement décidé de prendre en otage le patron pour qu'ils comprennent bien qu'ils sont prêts à tout pour ne pas se faire avoir par des primes de départ minables. On ne sait pas encore ce qu'ils ont obtenu, mais voilà, bah au moins le directeur du site sera au moins averti qu'on ne met pas les gens à la porte sans avoir de réaction.
Alors, Tayo, le Figaro annonce une vague d'émigration sans précédent dans l'histoire de France.
Tu lis vachement le Figaro en ce moment, parce que la semaine dernière, tu nous avais fait une brève sur le Figaro.
Et ouais, et du coup, bah, ouais, y a des thématiques de temps en temps, et là, on continue à tailler le Figaro. Donc, c'est la sondomanie chronique dont souffrent la plupart des médias dominants, prend parfois des formes aiguës. Et notamment quelques bouffées délirantes. Donc ainsi, le lecteur de passage sur le site du Figaro le 15 novembre aux alentours de midi pouvait lire donc les deux gros titres, je les cite, « Plus d'un tiers des 18-34 ans veut s'expatrier » et « Chômage, impôts, près de 50% des Français prêts à quitter la France ». Donc Acrimed a mené une petite enquête et donc le premier titre qui renvoie à une enquête d'opinion commandée par le Figaro étudiant et France TV à l'Institut Opinionway, s'avère aussi flou que le sondage qu'il commente. Donc, en rassemblant tous les jeunes de 18 à 34 ans dans le même sac et en les questionnant sur leur volonté sans qu'on sache quel degré de réalité elle révèle à leurs yeux, et en faisant comme si toutes les formes et tous les motifs d'expatriation étaient équivalentes, ce sondage et a fortiori son commentaire n'informe sur rien, mais montre les dérives des sondages. Et en gros, ils avaient donc le deuxième titre qui était un peu plus étayé en sens, et ils ont rajouté celui-là pour rajouter une couche, quoi. En revanche, donc le second article. Donc je vous le relis. Près de 50% des Français prêts à fuir la France. Ce titre semble improbable et pourtant introduit une dose de conditionnel. Prêt à, et il s'avère que les résultats détaillés du sondage livrent des prédictions beaucoup plus précises et définitives à partir des sondages. Donc là, c'est de Acrimed qui se base sur les sondages du départ. Avant que le Figaro en fasse son article. Donc, cette possibilité de partir devrait se réaliser dans un futur proche, donc plus de 21% des personnes interrogées pourraient s'envoler vers de meilleurs cieux dans les 3 mois à venir, 25% dans les 6 mois, 20% dans les 12 mois, donc 8 dans les 2 ans et 9 dans les 5 ans à venir. Et donc, c'est assez fou. Près des 16% sondés n'ont en revanche aucune idée quant à un possible départ. Bref, en tout cas, ça montre qu'il y a plusieurs millions de Français qui auraient donc pris le chemin de l'exode d'ici 5 ans. Et si le pire des scénarios sondagés se réalise, seuls 16% des Français qui n'ont aucune idée quant à un possible départ resteront sur le territoire. Et donc, Acrimed s'amuse à faire un petit truc en disant « La France ne comptera plus que 10 millions d'habitants en 2018 ». Voilà, voilà, pour montrer des fois la bêtise des médias.
Insuffisante pour la compréhension et la neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Alors, bonne nouvelle, un détenu se fait la malle de la maison d'arrêt de Béthune. Ce détenu a une trentaine d'années, et c'est la seule explication qu'on a, puis on va pas vous en donner, parce qu'on sait pas, hein, vous allez peut-être le balancer après. Il a réussi à s'évader de la prison pendant un transfert à l'hôpital. En gros, au moment d'attendre l'ambulance, il a échappé au contrôle d'une surveillante, s'est mis derrière elle et l'a étranglée avec ses menottes. Il lui a obligé de lui filer les clés en l'étranglant et du coup lui filer les clés pour pouvoir enlever ses menottes. Et après ça, bah, il s'est barré. Et, sauf que bah, quand même, c'est pas la première fois qu'il leur fait le coup. Bon, c'est d'être une personne qui a l'air malheureusement pour elle assez habituée de cet établissement pénitentiaire. Elle fait assez souvent des allers-retours.
Mais plutôt forte en kung-fu, quoi.
Ouais, plutôt forte en kung-fu, et surtout qu'elle s'était déjà évadée du même établissement il y a de ça 2 ans. Donc voilà. Et voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a toujours pas été retrouvé à l'heure actuelle, et on lui souhaite bon vent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et alors, vous, est-ce que vous connaissez ce barème antisexiste pour les films?
Mais alors, pas du tout.
Oui. Ouais, bah moi je le connaissais pas et j'ai trouvé un petit article qui me l'a expliqué et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc en tout cas c'est un barème qui a été mis en place il y a un petit moment, mais en tout cas le cinéma suédois lance cette nouvelle classification pour alerter sur les préjugés sexistes. Donc c'est le fameux test de Bechdel. C'est du nom de sa créatrice Alison Bechdel. Et elle est auteure de bandes dessinées féministes. C'est un test qui existe depuis 1985, donc il n'est pas nouveau, pour juger le degré de sexisme et de machisme des longs métrages. Et donc là, la Suède a décidé de l'utiliser, de faire une utilisation, on va dire, régulière de ce test pour tester chaque film qui sort. Et du coup, des blockbusters comme Harry Potter ou la trilogie complète du Seigneur des Anneaux ont une très mauvaise note dans le barème. Ce qui pourrait être étonnant parce qu'on se dit pas que c'est des films méga violents avec plein de sexe partout.
Non, et puis imaginez que ce soit des films comme ça où c'est les gardes partout et tout.
Par contre, des films comme Hunger Games, Blue Jasmine ou le dernier Superman obtiennent la note A, selon ce test.
N'allez pas les voir pour autant, parce que pour être allé voir le dernier Superman et Hunger Games, c'est quand même vraiment nul.
Mais en tout cas, bref, je cite ces films pour montrer un peu que... Pour questionner un peu sur comment est fait ce test. Et il est malin parce que je vais vous dire les seulement trois critères, mais très stricts, de ce test. C'est qu'il faut au moins 2 personnages féminins dans l'intrigue. Elles doivent se parler entre elles, donc avoir une conversation entre elles, et surtout, ces personnages doivent aborder des sujets autres que les hommes. Et ça, eh ben, ça évacue un paquet de films, parce que souvent les personnages féminins sont au service des hommes qui sont dans les films et qui sont les héros des films. Donc voilà, et donc depuis octobre dernier, 4 cinémas suédois ont décidé de faire passer les tests et d'appliquer les labels. Voilà. Et voilà, j'avais oublié ma chute. À quand ce label en France? Ah Alors, une info, petite connerie, sur les journées internationales. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 20 novembre et c'est le T-Day, donc c'est le jour de commémoration du souvenir des personnes trans et notamment les personnes qui ont été tuées, assassinées. Et c'est l'occasion de revenir sur les conditions de vie des personnes trans, le fait de faire des journées mondiales et de faire des sensibilisations. Mais revenons plutôt globalement aux journées internationales et tout le monde en connaît certaines. Par exemple, le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes. Le 25 novembre, c'est la journée des violences faites aux femmes. Le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le VIH. Mais ce genre d'initiative, depuis des années, en fait, se multiplie de plus en plus et pas forcément pour des causes intéressantes. Donc ça fait, moi, depuis un moment que j'entends des fois à la radio des sortes de « Ah, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de ça » et c'est assez étonnant. Donc, le 19 novembre, donc hier, est devenu cette année la journée mondiale des toilettes. Mmh. Et donc, pour ne citer que le mois de novembre, voilà ce que des personnes se font chier à recenser comme problème crucial de l'humanité. Donc hier, c'était la journée mondiale des toilettes. Mais dans le mois de novembre, il y a aussi la journée mondiale de la qualité. C'est important, la qualité. Il y a aussi la journée mondiale de la gentillesse. La journée internationale de la tolérance. La journée mondiale de l'utilisabilité. Et bon, je pense que ça va en même temps que la journée mondiale du recyclage.
Mais c'est fou. Mais c'est, et surtout qu'à chaque fois, c'est, enfin, je veux dire, quand c'est mondial, ça veut dire que
il y a vraiment sensibilisation,
plusieurs,
ouais,
plusieurs pays qui y participent, quoi.
Non, mais parce que entre le VIH et la gentillesse, il y a quand même une sorte de, d'intérêt.
Et les toilettes.
Et ou des toilettes, quoi. C'est un peu surprenant. Et aussi, ce qui est merveilleux, c'est que je ne savais pas aussi, qui m'a fait beaucoup rigoler. En mois de novembre, il y a aussi la journée internationale de l'homme. Alors je pense que c'est des masculinistes qui se sont rendus compte que c'était dégueulasse qu'il y avait une journée nationale, internationale des femmes et qui se sont dit non mais il faut la journée internationale de l'homme.
Ce qui est con parce que ce qui est stratégiquement, ils peuvent pourront plus faire la blague ah vous avez une journée, nous on a 365, enfin tu vois l'espèce de blague du 8 mars à chaque fois.
Voilà, bon, il y a une journée, voilà, et il y a, bon, après, c'est moins drôle, journée mondiale de la télévision et du jeu vidéo. Voilà, pour novembre, mais j'ai regardé que novembre, attention, il y a d'autres 11 mois.
Tous les débuts du monde pourraient se faire une petite chronique. Quelles sont les journées mondiales de ce mois-ci? Ça pourrait être pas mal. Alors, eh ben, tiens, on pourrait lancer la journée mondiale du centre de rétention et de même de brûle ton centre de rétention parce que là, c'est chaud, c'est chaud. Alors, bon, bah, c'était une coïncidence de date ou pas, mais en tout cas, en Hongrie et en Italie, les 100 papes ont décidé de foutre le feu au centre de rétention. Alors, je pense qu'eux, ils n'ont pas décidé de signer d'armistice avec leur maton. En Hongrie, d'abord, dans le centre de rétention de... Ouh là là, je vais très mal prononcer, mais... Békés Szabad, allez. Des révoltes, du coup, dans le centre de rétention, des révoltes ont éclaté, plusieurs fenêtres ont été détruites, trois chambres ont été incendiées. Mais ce qui a fait que les 192 retenus ont été évacués, malheureusement, 16 personnes ont été placées en détention provisoire pour incendie volontaire. Ensuite, en Italie, c'est au tour du centre de rétention de Via Corelli à Milan de cramer. Alors bon, si vous nous avez écouté la semaine dernière, ce qu'on ne doute pas, hein, ne pensez pas que je perds la boule et que je vais parler de la même info de mercredi dernier. C'est juste que la situation des centres de rétention en Italie est complètement dingue et que les gens sont prêts à tout. Alors, suite aux incendies de ces derniers mois dans le centre de rétention de Milan, du coup, ce centre est sur le point de se faire évacuer. Pour l'instant, sur la totalité des personnes retenues, 7 devraient être libérées, 10 ont été incarcérées et les autres, du coup, ils ont a priori été incarcérés pour incendie volontaire. Et les autres personnes devraient être réparties dans d'autres centres en Italie. Mais alors là, quand je dis d'autres centres en Italie, c'est qu'il en reste plus beaucoup de centres de rétention complètement intacts en Italie parce que après celui de Gradisca dont on vous a parlé la semaine dernière, c'est au tour de celui de Milan d'être sur le point de fermer.
Bah, ça va relancer l'économie de reconstruire les centres de rétention.
Là, je crois qu'il y en a à peine la moitié qui sont Il reste que quelques-uns qui sont complètement ouverts. En solidarité avec, les retenus, une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans le centre de rétention de Turin, enfin devant le centre de rétention de Turin, pour expliquer aux retenus, enfin pour faire passer le mot en gros, de ce qui s'était passé à Milan, et on imagine être dans la tête de ces vingtaines de personnes. Je pense que c'était un peu pour leur dire, ah, vous, si vous avez le goût, vous pouvez faire pareil. Mais les retenus étaient déjà au courant. Ça n'a pas empêché les manifestants de faire pas mal de bruit pour montrer leur soutien aux 100 papes enfermés, le tout accompagné de fumigènes, de pétards, et aussi ils ont, alors c'est une petite technique je trouve hyper astucieuse, ils ont enfilé du malox, mais comme c'est hyper chiant de jeter des trucs par-dessus des grillages pour que ça aille loin et tout, et ben ils découpent les balles de tennis, ils mettent ce qu'ils ont à mettre dedans, en gros du malox, et ils ont mis aussi des messages de solidarité, puis ça permet, je pense, avec des raquettes ou d'autres trucs, de les envoyer par-dessus les grillages.
Alors.
Voilà. Retenez, une technique bien pratique. Voilà, en gros, pour résumer la situation au CIE de Milan, en à peine plus de 60 jours, il y a eu 5 incendies dans le centre, rendant 4 des 5 zones qui composent le centre complètement inutilisables. En gros, sur 140 places, il n'en reste plus que 28, pas mal. Et une des raisons qui a fait partir les retenus en émeute dans ce centre, c'est la réaction disproportionnée des flics à l'intérieur du centre suite à un problème. En gros, ils ont vraiment tabassé tout le monde dans le centre et les retenus ont essayé de foutre la pression aux flics pour que des personnes qui ont été vraiment gravement blessées suite à des coups de matraque et des tabassages de flics soient emmenées à l'hôpital, ce que les flics ont refusé, ce qui a fait continuer à monter la pression, à faire monter, et puis voilà, du coup les gens ils se sont dit on n'a qu'à foutre le feu. Voilà, en tout cas en Italie, décidément chaque semaine on vous raconte des trucs comme ça, bon à part les passages à tabac, c'est quand même plutôt cool ce qui se passe là-bas, et en tout cas bravo à tous les retenus.
Quelques petites nouvelles de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors il y a eu l'occupation d'une maison à la Frosière. Donc la Frosière, c'est situé au bout de la piste nord du projet d'aéroport. Bien sûr, il n'y a pas encore d'aéroport. Et la maison était destinée à être détruite parce que la famille qui vivait à la Frosière a vendu sa maison à AGO parce que ils en avaient ras-le-bol des pressions incessantes et le harcèlement moral quotidien que venait faire AGO notamment et tous les constructeurs du projet. Et donc lundi, la maison a été laissée vide par ses habitantes et c'est alors du coup qu'un groupe d'opposantes au projet l'investit pour éviter sa destruction. Mais depuis un an, à chaque fois qu'une maison se vide sur la zone, elle est soit détruite dans la foulée, il y en a eu un sacré paquet, soit méticuleusement saccagée dans le but de la rendre inhabitable. Donc avec destruction, vous voyez, des escaliers, des chiottes, de tout un tas de trucs. Donc oui, porte-fenêtre cassée, plomberie arrachée, escalier démonté, cheminée détruite, jardin et potager écrasé, arbres abattus. Et sauf qu'aujourd'hui, cela fait 48 heures que la maison est occupée, avec le soutien d'habitants et de paysans. Et donc, comme ça est plus de 48 heures, il faut une procédure pour l'expulser. Après, je pense qu'eux, en vrai, ils s'en foutent parce que comme il y a des trucs spéciaux par rapport à la ZAD, ils pourront, quand ils le souhaiteront, l'expulser avec d'autres procédures. Mais bon, ça, c'est d'autres histoires. Et donc, les occupants propose de passer réparer la maison, amener du matériel pour que cette maison elle vive encore quelques temps. Voilà. Et on va finir ce journal par parler rapidement de football, où il y a hier eu 3 victoires. Donc il y a eu celle plutôt malheureuse et sûrement achetée des Bleus. Il y a eu celle de l'Algérie et il y a eu celle des supporters qui ont saccagé une voiture de gendarmerie à Besançon. Donc ils ont encerclé la voiture des militaires et l'ont recouvert de leur drapeau, donc c'était le drapeau algérien, avant de le secouer puis de donner des coups de pied sur le pare-choc arrière. Donc c'est plutôt gentil, un rétroviseur a été arraché et par contre il y a une pierre qui a été lancée et qui a brisé la vitre arrière. Et l'un des gendarmes a reçu donc des éclats de verre qui l'ont blessé un petit peu. Mais
tout ça pour avoir des dommages et intérêts, ça.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui a beaucoup énervé, il y a eu des renforts. Sauf que, hop, à l'arrivée des renforts de police, appelés par les militaires en difficulté, les manifestants avaient tous disparu. Il y a une enquête qui a été ouverte pour les retrouver, mais bon courage. Voilà.
Et ben c'est la fin de ce Canu Info.
Oui.
Pas de météo, mais parce que vous avez vu le temps qu'il fait, on va pas en faire une non plus. Il va faire froid toute la semaine comme ça. Et on va vous laisser avec des
Il va y avoir de la neige à Lyon.
Demain, normalement. Demain, ils attendent de la neige.